Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quand l'air du temps devient toxique, l'inconscient collectif se lit pour ainsi dire à livre ouvert. L'affaire est révélée le 8 février dernier par Libération. Entre 2009 et 2012, un groupe privé de Facebook baptisé Ligue du LOL, Ligue du LOL, composé d'une trentaine de journalistes et de communicants pionniers dans la maîtrise des réseaux sociaux, ont participé à des harcèlements sexistes et ou racistes en série et en toute impunité. Depuis ces révélations, les témoignages affluent. Ils sont principalement le fait de femmes, mais pas seulement. D'autres groupes ont été mis à jour dans les bureaux de la société de production Vice France notamment, ou au Huffington Post, mais c'est la Ligue du LOL qui semble avoir été le plus systématique, et c'est sur ce groupe que se concentre aujourd'hui toute l'attention. La plupart des journalistes impliqués sont ce que l'on appelle des milléniums, c'est-à-dire qu'ils avaient la trentaine au moment des faits. Tous ou presque se sont connus durant leurs études à l'école supérieure des journalistes de Lille. Et avant d'être mis à pied à titre conservatoire, tous ou presque travaillaient dans la presse de gauche la plus hype, telle les Inroc, Libération ou le site Slate. Et au départ, du moins, le groupe Ligue du LOL semble leur avoir servi de marchepied social avant de se transformer en repère de la meute. Nombre de leurs victimes elles-mêmes, journalistes débutantes, avaient affaire à eux professionnellement, parfois aussi sentimentalement, ce qui non seulement n'a rien empêché, mais semble plutôt avoir décuplé leur sadisme et leur infantilisme. Enfin, un certain nombre de harceleurs traitaient eux-mêmes des sujets liés au féminisme ou au harcèlement et donnaient dans leurs discours toutes les garanties de bonne morale de gauche, ou presque. Comment est-ce possible ? Pour y réfléchir aujourd'hui, Lucie Bellan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Slate. Vous vous occupez de sujets de société et de sexologie, plus particulièrement du courrier des lecteurs, qui va devenir bientôt un livre en juin prochain. Et vous avez été l'une des victimes de la Ligue du LOL.
Exactement.
Hélène Frappa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancière, vous publiez cet hiver chez Actes Sud, Le Dernier Fleuve, qui est un roman sur l'enfance et ses mythologies, mais vous êtes aussi une traductrice de Hannah Arendt notamment, et des études sur la personnalité autoritaire du philosophe Adorno, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous inviter, parce qu'il me semble qu'il y a un rapport. Belinda Cannon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur et maître de conférences en littérature comparée, vous savez ça ? Non ? Oui ?
Oui.
Vous enseignez à l'université Caen en Normandie et vous écrivez depuis une vingtaine d'années des livres sur des questions liées au désir, au féminin. Parmi vos romans, on compte L'homme qui jeûne aux éditions d'Olivier, Entre les bris, Nuit intérieure et puis aussi plus récemment L'écriture du désir qui est un essai. En janvier 2018, durant le mouvement MeToo, vous avez refusé de signer la pétition dite des Deneuve sur la liberté d'importuner. Vous vous dites proche des thèses défendues par Elisabeth Badinter sur l'universalité, c'est ça ?
C'est ça.
Et Gilles Clavreul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fils de psychanalyste Jean Clavreul, ce que j'ignorais.
Et de la psychanalyste Irène Diamantis,
ce que j'ignorais aussi. Vous avez été délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme entre 2015 et 2017. Vous êtes l'un des cofondateurs du Printemps républicain qui se donne pour but de défendre la laïcité. Vous avez lancé en juin dernier le think tank L'Aurore qui a publié la semaine dernière un article sur l'affaire de la Ligue du LOL. Et la vraie raison pour laquelle j'ai tenu à vous avoir aujourd'hui, c'est aussi que vous avez été une des cibles politiques des ligueurs, si je puis dire, mais aussi de leurs adversaires, de certains groupes féministes. Donc vous êtes une situation...
Victime collatérale tout au plus.
Oui, bien sûr, victime politique. Mais c'est intéressant de vous avoir, puisque vous êtes entre deux feux, en quelque sorte. Donc, Lucille Bellan, je vais commencer par vous. Je vais vous demander de raconter une fois encore en résumé comment ça s'est passé au début. En 2010-2011, vous aviez 25 ans, c'est ça ?
Exactement.
Et vous étiez critique de cinéma,
oui.
En couple, avec l'homme qui est aujourd'hui votre mari.
Oui.
Et vous avez dit que lui, remettait en cause sa masculinité. Vous remettiez d'un divorce très difficile. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à déraper.
Exactement. Il a pris position sur le réseau social Twitter pour défendre une de nos amies.
Votre mari.
Mon mari, oui. Thomas Messias, du coup. Et en fait, la personne qui l'attaquait plus ou moins directement était malheureusement un membre de la Ligue du LOL. ce que nous ne savions pas à l'époque, parce que nous ne connaissions pas l'existence de la Ligue du LOL à l'époque. Et là, ça a commencé. Donc, nous sommes devenus des cibles privilégiées parmi tant d'autres. Mais en fait, la Ligue du LOL avait un système particulier qui était que, un peu comme tout sur Internet, en fait, plus on donne de grains à moudre, plus on crée de contenu et plus on a des choses pour nous attaquer. Et avec Thomas, mon mari, on est donc devenu beaucoup plus journaliste, on a beaucoup plus écrit, notre carrière s'est développée. On était tous les deux blogueurs, on a aussi beaucoup parlé de notre vie privée sur les réseaux sociaux pour réfléchir au féminisme, à la parentalité, remettre en cause la masculinité. Et tout ça a été utilisé contre nous par la Ligue du LOL, qui était donc des gens avec qui soit on avait l'occasion de travailler, soit qu'on a beaucoup croisé en soirée pour le travail, soit...
Oui, vous connaissiez encore.
Ou certains, oui. Certains,
pour certains.
Oui, oui, enfin même très bien, enfin des gens avec qui j'ai beaucoup croisé dans le travail.
Et vous saviez que c'était eux ?
Un peu plus tard, j'ai eu la confirmation des noms. On a eu la confirmation des noms, mais comme toute cette histoire est restée un peu en sous-marin, c'est-à-dire qu'on voyait ce qui se passait. On comprenait les méthodes, on voyait des noms ressortis, on voyait des likes qui voulaient dire beaucoup de choses. Et en fait, on avait des petites idées, on se disait, c'est pas alors lui, il est relié à lui. On avait ce genre de réflexion comme ça, mais en fait, on voulait pas avoir l'air paranoïaque. Et c'est tellement dingue de penser qu'un groupe de journalistes très cool, qui bossent pour des médias, qu'on respecte énormément, font ce genre de choses volontairement. Ça paraissait complètement dingue. Et donc, quelques années plus tard, on a eu la confirmation que la Ligue du LOL existait bien par quelqu'un qui avait eu l'occasion de la voir en vrai, mais qui n'est pas, à qui on a proposé d'entrer et qui n'est pas resté. Et cette personne m'a confirmé quelques noms, ceux dont on était à peu près sûrs, et m'a dit, écoute, faites attention. Et ça a continué, puisque du coup, ça a commencé pour nous en 2010-2011 et ça ne s'est jamais vraiment arrêté, puisque les dernières références qu'il y a eu, en l'occurrence à mon mari, ont déclenché un peu toute cette affaire. Thomas Messias, du coup, a fait un tweet pour ce qu'on appelle un subtweet, donc un tweet qui n'est pas directement mentionné, qui ne mentionne personne, mais qui était une référence à une interview de Vincent Glade pour dire qu'il se rachetait un peu une virginité avec l'affaire des Gilets jaunes et que son traitement était très bon, mais qu'en gros, on savait tous qu'il avait fait partie d'une bande de harceleurs de féministes. C'était à mots couverts, mais ça voulait dire ça. Donc, les gens ont compris que ça voulait dire ça. Et Alexandre Hervault, qui était donc chef de rubrique à Libération, a répondu au tweet de Thomas et a répondu en ayant des propos diffamatoires assez graves à son encontre. Et donc là, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire qu'on est post-MeToo et qu'enfin, des gens qui, d'habitude, témoignaient... tout le monde sortait un truc une fois par an, ou un petit subtweet ou un truc pour dire que bon, on savait que la Ligue de LOL existait, que on avait marre d'être des victimes et ainsi de suite. Personne ne se coordonnait et cette fois-ci, il y a eu un alignement de planètes et les témoignages ont commencé à sortir les uns après les autres et finalement cette espèce on se retrouve là aujourd'hui à en parler, alors que ça fait des années que tout le monde est au courant dans le milieu du journalisme parisien et qu'il y a déjà eu des enquêtes antérieurement qui ne sont jamais sorties dans la presse.
Donc oui, alors c'est insensé.
Alors c'est pas insensé, il faut aussi dire que c'est un état de la presse qui est particulier, on parle de presse en ligne. En l'occurrence, il y a une enquête qui a été commencée chez Slate il y a quelques années et une enquête commencée chez BuzzFeed avant sa ferme. Et en l'occurrence, les médias n'avaient pas les moyens de pousser ces enquêtes plus, tout simplement. C'était des enquêtes assez lourdes, avec vraiment de la recherche de preuves, beaucoup de témoignages. Et les journalistes qui ont travaillé là-dessus ont dû arrêter parce qu'il n'y avait pas les moyens.
Parce qu'il n'y avait pas de moyens. Voilà, c'est aussi un signe de la crise de la presse.
Exactement.
Alors, quelques témoignages très rapidement. Florence Porcel, journaliste scientifique, a subi des photomontages pornographiques très dégradants. Elle raconte que les ligueurs ne sont pas contentés de la harceler sur Internet. Ils sont aussi allés jusqu'à se rendre sur son lieu de travail. Ils étaient cinq. Elle dit qu'ils étaient cinq et qu'ils l'ont entouré physiquement. C'est extrêmement intimidant. Daria Marx, fondatrice du collectif Gras Politique qui lutte contre ce qu'elle appelle la grossophobie, dit une déferlante de haine comme j'en avais jamais connue, insultes, photos volées et trafiquées, tentatives d'intimidation, menaces de viol et de mort. Elle a été arrêtée par son psychiatre, elle est devenue insomniaque, elle s'est laissée aller à penser qu'elle ne valait plus rien, elle a pensé au suicide. Capucine Piau, journaliste beauté, a aussi pensé au suicide, ça elle l'a raconté dans plusieurs médias. Vous, vous dites que vous faisiez des cauchemars dans les pires moments. Vous êtes aussi allée à la police pour essayer de porter plainte.
Exactement, j'ai subi une usurpation d'identité en 2015 et du coup moi j'ai essayé de porter plainte à la gendarmerie en vain puisque déjà expliqué à la gendarmerie alors on part tellement quand même on est en 2015 et donc il fallait expliquer Twitter, possiblement la Ligue du LOL, le milieu du journalisme parisien, j'ai été porter plainte en province, j'habite en province, tout c'était absurde et c'était pénible et je savais en allant porter plainte qu'il fallait que je le fasse parce que c'était important, mais que malgré tout ça ne mènerait nulle part. 2 ans plus tard, j'ai reçu une gentille lettre qui me disait qu'en fait on ne pouvait pas retracer les gens que j'avais nommé. C'est extrêmement frustrant. Après, du coup, non, ça a été aussi... ce qu'il faut dire aussi avec la Ligue du LOL, c'est que c'est des gens qu'on côtoie, qu'on croise. Il y a eu des victimes, même au-delà du cyberharcèlement, il y a eu des agressions sexuelles. Moi, j'ai été agressée sexuellement par un membre de la Ligue du LOL. Je ne suis pas la seule. Non, il y a eu des confrontations physiques. Ça a été très loin.
Oui, c'est-à-dire que le net n'est jamais que le net.
C'est ce que... On a eu des excuses il y a quelques années par un membre de la Ligue du LOL qui nous a dit « Internet, ce n'est pas la vraie vie ». En réalité, quand on est journaliste trentenaire et qu'on fait sa carrière dessus, le net, c'est la vraie vie. Et puis les limites après, pour ces gens qui se croyaient complètement tout permis, en impunité totale, et qui avaient déshumanisé des personnalités d'Internet dont je fais partie, pourquoi s'arrêter là ?
Oui, c'est ce qu'on pensait au début d'Internet, qu'il y a des avatars et qui font des choses dans une espèce de monde virtuel, de fictionnel, qui n'a rien à voir avec ce que ferait la personne concernée, c'est pas vrai du tout.
Mais non, pas du tout. Et puis les conséquences dans la vie sont directes, c'est-à-dire que quand on se fait insulter sur Internet, même si on est habitué, même si on éteint son portable et qu'on le met à 3 mètres de soi, on encaisse physiquement le harcèlement en ligne. Il y a des enquêtes qui ont été faites là-dessus pour les femmes journalistes en plus particulier qui sont très harcelées en ligne. Une majorité de femmes journalistes ont déjà été harcelées en ligne, c'est de l'ordre de 2/3 des femmes journalistes. Et les conséquences sont extrêmement graves physiquement. Le collectif Prenons la Une est en train d'essayer de faire passer le cyberharcèlement comme une problématique de travail grave qui peut justifier des arrêts de travail, ce qui pour l'instant n'est pas le cas.
Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que Belinda Cannon, qu'est-ce qu'on peut dire, comment c'est compréhensible une histoire pareille dans ce milieu, parce que c'est quand même important, le milieu qui est théoriquement un milieu de journalistes éclairés, en l'occurrence. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ?
A priori, je dirais d'abord que c'est une situation humaine fondamentale. C'est-à-dire, un des harceleurs a parlé de lui et de leur groupe comme le groupe des bourreaux. Je crois qu'on est tout à fait dans ce cas de figure. On est devant un groupe de bourreaux. Et ça existe déjà dans la cour de maternelle, ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnalités dominantes, en tout cas qui veulent l'être, et qui s'adisent ceux qui sont considérés comme plus faibles. Donc, a priori, la situation est complètement banale dans les impulsions.
Dans ses fondamentaux.
Oui, dans ses fondamentaux et dans les pulsions qu'il amène. Après, ça devient très singulier, très particulier à cause du milieu dans lequel ça se passe et à cause des moyens. Vous dites bien que finalement, on ne sait pas encore très bien comment se dépatouiller. Les gendarmes ne comprennent rien à Internet, etc. Donc voilà, ça, c'est nouveau. En revanche, vous dites dans ce milieu. Alors là, je ne sais pas si je vous suis, parce que je ne crois pas que les journalistes, fussent-ils de gauche, je ne crois pas que les journalistes soient particulièrement des âmes saintes. C'est-à-dire qu'ils sont exactement comme tout le monde. Et non, mais je veux même dire que le fait qu'ils aient, tous ces gens-là, aient écrit dans les journaux, des bons journaux de gauche, ou qu'ils aient écrit autour de l'affaire MeToo et qu'ils aient pris ils n'ont pas pris des positions, justement. Ils ont fait leur travail de journaliste. Ils ont rendu compte d'un état de la société. Ça ne veut pas dire qu'ils en étaient persuadés. La preuve.
Hélène Frappa.
Oui, je dirais comme Jacques Lacan que si on commence à croire à ce que les gens disent, je pense qu'on est un peu mal barré. Enfin, pardon de rappeler, je pense juste cette naïveté. Enfin, moi, je ne suis pas du tout étonnée, mais je prononcerai un mot qui n'a pas été prononcé, mais je vais pas me cacher, mais enfin, je vais le prononcer derrière Adorno, mais qui est le mot fascisme.
Oui, oui.
En fait, je pense que pour moi, il s'agit de ce que, en tout cas, Adorno, dans ce livre absolument prophétique, mais qui a été publié en 1950, mais qui me paraît être une analyse très très précise de ce que nous...
Il s'agit des études sur la personnalité autoritaire.
Les études de la personnalité autoritaire, c'est-à-dire en fait réalisées à partir d'une étude après l'exil d'Adorno aux États-Unis. Donc il a l'American Jewish Committee avait commandité une étude, donc après la en 45-46, pour essayer de comprendre, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'il existait ce qu'Adorno appelle un potentiel fasciste de la personnalité humaine. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver scientifiquement, prouver scientifiquement l'existence d'un tel potentiel. Donc c'est une étude réalisée sur des dizaines de milliers de cas. Et je suis assez frappée de voir à quel point, finalement... Donc il s'agit d'Américains,
oui.
En Californie plus précisément, où il résidait. Je suis vraiment frappée de voir une continuité historique dans tout ce que j'entends là. Et ce que montre, alors c'est une étude finalement qui prend deux présupposés, marxiste et freudien. Donc c'est-à-dire déjà, il y a cette idée très complexe, et moi c'est pour ça que je rigole un peu quand j'entends des journalistes de gauche, il y a quand même cette idée du psychisme humain qui complexifie un peu, ce que à un moment Adorno distingue les niveaux de ce qu'un individu dit en public, ce qu'il pense sans le dire, ce qu'il dit sans le penser, etc., etc. Il y a quand même des strates extrêmement complexes du psychisme humain déjà qui font que croire aveuglément que quelqu'un, homme politique ou autre, va agir de manière conforme à son éthique, bon, c'est déjà une histoire très compliquée, mais la deuxième chose, c'est le marxisme, c'est-à-dire l'idée d'une structure de la société qui va, non pas justifier, mais éclairer certains types de comportements aussi. Alors, pour le dire de manière plus rapidement, Belinda, tu parlais de la cour d'école. Moi, je la préciserais, cette cour d'école. C'est pas la cour d'école en général, c'est la cour d'école d'une société patriarcale, où des valeurs dominent, qui sont des valeurs souvent, en effet, comme un très beau film de Claire Simon l'avait montré sur les écoles maternelles, souvent des valeurs, entre guillemets, en tout cas des comportements plus que des valeurs d'humiliation, de sadisation du plus faible, etc., etc., qui sont des comportements que Adorno va relier au fascisme, qu'on retrouve, mais qui finalement lui permettent de montrer, et je le cite, parce que ça me paraît très intéressant par rapport à cette histoire, je cite, et c'est ce à quoi il arrive comme conclusion, un homme qui se montre hostile à l'égard d'un groupe minoritaire a de fortes chances d'être hostile à l'égard d'une large variété d'autres minorités. C'est-à-dire qu'il y a un continuum, en tout cas dans ce qu'il analyse, entre le sexisme, la haine contre la femme, la haine contre le juif, la haine contre le noir, la haine contre le pauvre, etc. Bon, toutes sortes de déclinaisons, finalement, d'une même forme de haine qui définit ce qu'il appelle le potentiel fasciste. Pour moi, on est dans un cadre, dès lors qu'il s'agit de haine, là, je pense que c'est quand même intéressant de revenir à... Alors, la psychanalyse n'est plus tellement... plus tant que ça opératoire politiquement, je trouve, à notre époque.
Oui, c'est ce que j'allais
dire.
C'est
fort dommage, d'ailleurs.
C'est ce que j'allais dire. C'est des analyses qui ont été très célèbres dans les années 60, en particulier, 60-70, et qui semblent avoir été complètement oubliées.
Elles sont oubliées à un moment où un proche pays, l'Italie, est sous gouvernance fasciste, où nous aurions en France de fortes raisons de nous préoccuper, entre autres, à cause de la montée de l'antisémitisme. Enfin, montée, ça fait longtemps que ça monte, l'antisémitisme. Ça n'a même jamais baissé, en réalité. Mais là, disons que ça devient de plus en plus voyant. Donc, finalement, ces analyses-là, elles sont toujours aussi pertinentes. Et je pense qu'il est même très urgent de se poser des questions sur les groupes dominants en général de la société qui, en effet, sont systématiquement masculins. Parfois même lorsqu'ils sont d'ailleurs occupés par des femmes. Là, je citerai Virginia Woolf qui avait quand même cette phrase géniale qui disait « La résistance des femmes à l'émancipation des femmes est le chapitre le plus intéressant de l'histoire de l'émancipation des femmes. » Donc c'est très complexe en fait.
Oui. Sur l'aspect fasciste, enfin, de fait, le choix des cibles de la Ligue du LOL est quand même révélateur. C'est-à-dire qu'il y a les femmes, les féministes, mais aussi les minorités. Il y a deux cas d'antisémitisme avéré. Ce qui est flagrant aussi, c'est que ces ligueurs avaient tous une image hyper cool de type branché, pensant correctement, etc.
On a aussi, c'est que des hommes blancs, valides, d'une trentaine d'années et majoritairement hétérosexuels.
Ce qui devient presque pléonastique.
Oui, exactement.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est leur pseudo aussi. Les pseudos, c'est fou la merde, je suis un hater. Je suis un hater. Langue de pute, je suis une salope, humour de droite, tweet poubelle, etc. etc., etc.
Pour les comptes anonymes, ce qu'il faut dire sur la Ligue du LOL, c'est qu'il y a une partie anonyme et une partie qui est au vu et au su de tous avec leur vrai nom, leur vraie photo, leur vrai. Ouais. Donc en l'occurrence, pour ce qui est d'Alexandre Hervault, c'est sous son nom. Mm-hmm. Le journal Libération ne s'est pas posé la question quand ils l'ont embauché si son compte Twitter était.
C'est un cas particulier.
On va en parler.
Je dis que la vraie.
Oui, c'est d'ailleurs assez singulier. Je trouve que ce soit dans ce milieu professionnel-là où, en principe, il devrait y avoir le plus de vigilance à la réputation virtuelle, à ce qui a été dit, écrit avant, etc. Que là, les vérifications minimales qui sont en train de s'imposer dans toutes les entreprises, où on surveille maintenant beaucoup ces choses-là, ce que vous avez écrit avant, votre cyber-réputation et tout ça. Là, curieusement, ça n'a pas fonctionné.
Parce que la première génération va y être confrontée, à vrai dire. Quand tous ces gens-là sont arrivés sur Twitter, c'était le tout début de Twitter. On est sur des choses où on n'a pas de recul dessus. Je pense qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on a un tout petit peu de recul dessus, mais j'ose espérer que les générations futures y réfléchiront à deux fois quand même.
Vous avez raison, les faits rapportés, ceux que vous avez vécu vous-même, sont relativement anciens maintenant, enfin anciens à l'échelle d'Internet, évidemment. En revanche, les embauches là dont on parle sont elles assez récentes, donc peut-être qu'elles auraient dû donner lieu à un certain nombre de contrôles, de vérifications qui n'ont pas été faites, manifestement. Mmh.
Certains disent aussi qu'ils ont, dans leurs excuses ou leurs pseudo-justifications, certains disent aussi qu'ils insistent bien sur le fait qu'ils sont honnêtes, en ce sens qu'ils n'ont jamais voulu nettoyer leur compte. Ils tiennent à ce que tout reste en l'état, assez bizarrement. Il y en a au moins trois qui expliquent ça.
Alors, il a été prouvé au fur et à mesure des excuses et de tout ce qui s'est passé ces derniers jours que certains ont quand même enlevé quelques tweets avec quelques recherches spécifiques. Je pense les choses les plus problématiques. Mmh. Et on parle quand même de, pour certains, dizaines, centaines de milliers de tweets à vérifier. C'est-à-dire même les gens qui auraient voulu faire une enquête dans ces derniers jours, c'est énorme la quantité de travail que ça représente. Twitter, en plus, ne facilite pas forcément les recherches. En l'occurrence, en 2009-2010, pour remonter jusque-là, c'est un coup à tuer quelques ordis avant d'y arriver. Donc c'est oui pour Alexandre Hervault qu'on a en particulier parlé. Il a toujours assumé sous son nom, mais il a été prouvé qu'il y a quand même eu quelques nettoyages de faire.
On parlait d'autoritarisme. Hélène Frappa, l'une des raisons pour lesquelles on en parle, c'est qu'il y avait des relations professionnelles entre les harceleurs et les harcelés. Ça joue un rôle dans cette histoire. Il y a une hiérarchie non dite, parce qu'en plus, c'est des freelances, c'est des journalistes qui ne sont pas salariés.
On parle de gens très précaires, précarisés aussi par leur genre, puisqu'en l'occurrence, femmes pigistes qui débutent dans le milieu du journalisme, c'est quand même pas forcément très très facile. Je pense que on a vécu sous un règne de terreur pendant quelques temps dans un régime qui est déjà très très opaque à l'origine, puisqu'il n'y a pas d'offre d'embauche dans le journalisme. C'est quelque chose d'extrêmement opaque, le journalisme.
C'est quelque chose qui
va être réfléchi. Ouais. J'espère que cette affaire va faire réfléchir ça, la transparence à l'embauche dans les rédactions.
Gilles Cabral.
Moi, il y a quelque chose qui m'a tout de suite frappé lors de l'éclatement de l'affaire. Vous l'avez presque dit tout à l'heure, Hélène Frappa, c'est un dispositif sadique, en fait, qui se met en place, dans lequel un groupe se constitue, un collectif, alors effectivement, d'hommes forts et qui se regardent, qui se mesurent, je ne vais pas aller plus loin dans la métaphore, dans leur attitude, et qui ciblent des victimes là où elles peuvent avoir de la prise. C'est-à-dire, en effet, une fragilité personnelle, une fragilité économique, ou encore une fragilité intime, par exemple, lorsqu'il y a eu une aventure personnelle, des photos, des documents compromettants, et qui sont exploités comme ça. Et après, le dispositif se met en place dès que la victime commence à bouger, à gigoter, et plus elle gigote, plus le filet se referme sur elle. Et c'est là qu'est la véritable cruauté, et on voit quelque chose qui relève, alors je vais aller dans vos briser une nouvelle fois, mais qui relève de la jouissance perverse, littéralement, chez ces hommes qui sont dans la surenchère jusqu'au moment où ils se lassent et ils passent à une autre victime.
Mais c'était le fonctionnement, de toute façon, il y avait un fonctionnement très cyclique On était la cible pendant un temps, pendant en général quelques jours, quelques semaines, et puis ça se calmait, et puis ça revenait en fait. Mmh. Et on voit, moi c'est vrai que j'avais une vraie culpabilisation quand ça s'arrêtait, parce que je me disais, si c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. Et ça ne s'arrête jamais, parce qu'on a dit qu'ils étaient très actifs en 2012-2013, mais en réalité, donc du coup, certains membres ont continué jusqu'en 2019, donc on est quand même sur un truc, une affaire de 10 ans. Donc dans la construction de la pensée, dans comment on se construit en tant que personne quand on est une jeune femme, ou même un jeune homme qui débute dans le milieu du journalisme, c'est dévastateur.
Oui, j'allais dire, j'ai été très frappée par ce que vous disiez tout à l'heure, que vous n'osiez pas, au fond, vous aviez du mal à vous en plaindre parce que vous auriez l'air paranoïaque. Et c'est vraiment le dispositif du pervers, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, tout va très bien, et celui qui est l'objet du sadisme du pervers n'ose pas, parce que personne ne le croira. Il se sent vraiment seul à voir ce qui est en train de lui arriver. Et là, c'est vraiment ce dispositif.
Mais surtout qu'on oppose l'humour à tout ça. Ils ont beaucoup dit « mais t'as pas d'humour, tu comprends pas notre humour ». C'est quelque chose qu'on reproche d'ailleurs beaucoup aux féministes en général. Ou à tous les gens qui s'engagent dans un combat, quel qu'il soit, on leur dit beaucoup, vraiment, on peut plus rigoler avec vous, c'est beaucoup trop sérieux tout de suite. Bah là, c'était ça, en fait. Être la personne qui disait stop, là, c'est n'importe quoi, ça dégénère, et vous êtes vraiment trop agressif, vous nous faites du mal. Et on a été plusieurs à le dire ces dernières années, quand on était mal, sous le coup de la colère ou sous le coup de l'épuisement intellectuel et moral. Et la réponse, c'était, oh là là, tu sais pas rigoler.
Oui, c'est intéressant, cette liesse, cette espèce de joie collective dans la violence.
Oui, moi je pense que la question maintenant, il est temps vraiment de la soulever. Et quand je dis la soulever, pas juste la soulever, mais de prendre des mesures politiques. Hein. C'est-à-dire, ça fait un moment, moi je ne crois plus au pervers individuel. Enfin, je suis d'accord avec ce que dit Belinda Cannon. On est dans un fonctionnement que tu décrivais très bien. Mais en revanche, je me demande s'il ne faut pas s'interroger sur des formes de perversion beaucoup plus collective et puis institutionnelles, en fait. Hein. C'est-à-dire, la question, c'est la question du pouvoir, hein, tel qu'il est exercé. Il me semble qu'en France, il n'y a pas eu, suite à l'affaire MeToo, d'enquête systématique, enquête au sens policier du terme, qui aurait dû être menée dans toutes les instances dirigeantes de pouvoir. Est-ce qu'on est allé s'interroger sur toutes les grandes écoles? Moi, j'ai fait il y a longtemps une grande école. Je pourrais témoigner à mon époque de l'extrême misogynie qui régnait, en l'occurrence, dans le laboratoire de philosophie de l'école normale supérieure, milieu soi-disant très éclairé. Bon, qui a étudié c'est les grandes écoles? Qui est allé voir à la FEMIS comment se passe concrètement la vie des étudiantes et des étudiants?
Moi,
comment ça se passe aux Beaux-Arts concrètement?
Dans les écoles, en vrai.
Les écoles de journalisme.
On est partout, en fait.
Je parle des lieux, je suis d'accord avec vous, mais je parle des lieux d'exercice du pouvoir pour essayer de comprendre ce que c'est, remettre en cause cette question du pouvoir au-delà des espèces de petits clivages pathétiques, certes, mais qui ont des conséquences destructrices. De clivage, je parle de clivage parce que d'un côté, effectivement, on est de gauche, mais être de gauche, c'est vraiment de la déco, là. Ça a l'air d'être vraiment presque un symptôme de notre époque, la déco. Hein. Quelque chose de, une sorte de, comment dirais-je, de qualité narcissique. Un petit supplément d'âme, comme dirait Robert Musil il y a un siècle, mais encore une fois, c'était une analyse prophétique. Un petit supplément d'âme, et dans le réel, il n'y a rien qui s'exerce, qui ait à voir avec autre chose que de la déco, c'est-à-dire l'éthique. Terme un peu démodé. Ces questions-là n'ont pas été posées. Elles continuent à ne pas être posées. Et je répète, je pense que entre ce qui est décrit là de forme de haine et les 74% d'augmentation de l'antisémitisme, moi, je fais un lien directement. La haine est la même partout. La haine, c'est quand même un des acquis de ce que Freud nous a laissé, que la forme de la haine est la même partout.
Alors, Gilles Clavreul, justement, un des fils qu'on peut relier dans cette histoire du LOL, c'est le lien avec l'affaire Mehdi Mehklat.
Oui, il y a des petits points de ressemblance, en effet, ou d'adhérence, notamment tenant au fait que beaucoup des membres de la Ligue du LOL ont été des soutiens plus ou moins actifs de Mehdi Mekhlat.
Ou des proches ou des amis.
Et ce qu'on retrouve dans les deux cas, c'est pour ça que la question, disons, idéologique, morale est quand même un peu à creuser, c'est cette schizophrénie. C'est pas dans n'importe quel sous-secteur du journalisme ou de la presse que c'est arrivé. C'est dans celui où on défend les valeurs les plus progressistes, les plus égalitaires, les de tolérance, etc. Alors, il y a l'aspect de coulitude en plus qui se rajoute à ça, mais...
Alors je rappelle juste pour les auditeurs ce qu'a été l'affaire Mekhlat. Hein. Mehdi Mekhlat est devenu une star des médias et chroniqueur à France Inter notamment, et très soutenu justement par les Inrock et Libération notamment, parce qu'il venait des cités, donc pour des raisons officiellement et politiques et sociales, jusqu'au moment où certains sont apparus en public certains des messages de haine antisémite, misogyne et homophobe qui postaient régulièrement sur Twitter et dont les journalistes aux Inrecuptibles et à Libération avaient vent parfaitement. Et en vantait l'humour de Mekhlat sur ses tweets. C'est exactement le même ton qui était employé par les diggers. C'est ça qui est intéressant.
C'est la même génération. C'est exactement le même type de web, en fait. C'est juste une suite de cette affaire, plus ou moins sur cette question. C'est-à-dire qu'on a affaire à exactement la même génération de jeunes hommes qui sévit exactement de la même manière. Et d'ailleurs, après l'éclatement de l'affaire Mekhlat, il y avait eu un léger calme du côté de la Ligue du LOL, et puis un nettoyage de certaines timelines. Du coup, il y avait eu quand même une petite prise de conscience, genre on va quand même un peu nettoyer.
C'est intéressant.
Si, on avait vu une légère réflexion de leur part, en tout cas. Genre, ça peut nous tomber dessus un jour quand même, peut-être. Et puis en fait, non.
France Culture, signe des temps, Marc Wetzmann.
You seem such a straight girl. I still ask though. Figuring in the half life. Well bred ballerina bone.
Voilà, on continue ce débat. Il y a quelque chose d'intéressant quand même à souligner dans la manière dont la pensée de gauche ou les impératifs moraux de gauche sont utilisés par les ligueurs eux-mêmes dans leur stratégie de harcèlement. Je pense en particulier à Alexandre Hervault, qui a été interviewé en septembre dernier par un site qui s'appelle Fier Panda. Et l'article était censé réfléchir aux réseaux sociaux de la haine.
Ce qui est assez ironique.
Oui, Alexandre Hervault était donc lui-même un des ligueurs. Et il dit qu'il a son niveau personnel. C'est évident qu'être sur Twitter et journaliste libé et un peu grande gueule, c'est vraiment un aimant à merde. Je cite verbatim, hein, pardon pour la poésie. Il dit qu'être libé, c'est l'assurance d'être visé par quasi tous les côtés du spectre politique. La droite et l'extrême droite s'attaquent à lui, bien sûr. Et tant mieux, ajoute-t-il, mais aussi la Macronie. Et aussi, bien sûr, le printemps républicain, Gilles Clavreul. Vous êtes donc considéré comme un des harceleurs d'un des ligueurs. Et les laïcars du printemps républicain, dit-il, qui ne représentent pas grand-chose, mais sont toujours doués pour te pourrir la vie pendant 48 heures, etc., etc. Et puis après, il dit qu'il espère que le procès des harceleurs de Nadia Adam, qui l'a couvert pour Libération, ira jusqu'au bout et que la machine suivra derrière et que l'institution judiciaire, bien que débordée et sous-financée, prendra à bras le corps le phénomène en simplifiant les démarches. Et il ajoute, ce qui me semble être un trait de perversité pratiquement inconsciente, je précise que dans la première version de cette réponse, je militais pour le retour de la peine de mort pour les harceleurs.
C'est du foutage de, bien sûr.
Mais c'est quand même intéressant que quelqu'un soit capable de développer à ce point sur une pratique qu'il fait lui-même, en utilisant bien sûr tout un vernis moralisateur et politique.
Je pense qu'il y a une sorte de mépris social, un peu de mépris de classe dans cette réponse, parce qu'en fait c'est vrai que les harceleurs du 18-25, donc qui ont harcelé Nadia Adam pendant des jours entiers et qui ont été extrêmes jusqu'au boutiste dans leur démarche qui a été bien au-delà du web, ils sont considérés, je pense, par les gens de la Ligue du LOL comme un peu le petit peuple d'Internet. Enfin, ils sont organisés, mais ils sont pas très intelligents. Alors que la Ligue du LOL s'estime intelligent. Ils estiment d'ailleurs être les jeunes talents du web. Donc je pense qu'il y a un côté un peu mépris de classe. Et c'est pas, on peut jeter sous le bus le 18-25 et tous les harceleurs qui sont complètement bêtes. Mais eux, par contre, c'est un type de harcèlement, je dirais presque de classe, quoi.
De haut niveau.
Quelque chose de, c'est
des paillettes. Ceci dit, ce qui est frappant dans cette affaire, ce qui est saisissant, c'est que on a rarement vu des gens aussi méprisables. On en a souvent affaire à des gens qui nous déplaisent, dont l'attitude nous déplaît, etc. Mais là, c'est vraiment, ils sont à vomir, ces types. Ils ont tout, ils cochent toutes les cases pour qu'on les vomisse. C'est inouï leur positionnement.
Et pourtant, ils sont considérés encore aujourd'hui par certains, sont considérés comme des gens extrêmement sympathiques. Il y a une dichotomie, hein, quelque chose d'assez compliqué, même en tant que victime. En l'occurrence, Alexandre Hervault, on le croisait dans beaucoup de soirées à Paris. Moi, je l'ai croisé dans beaucoup de soirées à Paris. En vrai, il a l'air très sympathique. C'est difficile de le détester.
Les grands pervers ont toujours l'air très sympathiques, hein, pour tout le monde, sauf pour leurs victimes, généralement.
Mais vous-même, vous êtes toujours en relation avec un des membres de la Ligue, non, ou à Slate?
Exactement, c'est mon rédacteur en chef à Slate.fr, donc Christophe Caron, qui a publié ses excuses et a expliqué son rapport à la Ligue du LOL lui-même, tout seul, comme un grand. Il dit qu'il a été observateur, donc complice par l'observation et par son silence. Et puis du coup un peu moqueur, mais sans participer forcément au raid qu'il y a eu, et puis sans participer de façon active au harcèlement qu'il y a eu sur Internet. Évidemment pas du tout dans la vie. C'est quelque chose dont on a parlé. En fait, la preuve que c'était quelque chose de su partout, et même par les ligueurs que c'était su, c'est qu'on en a parlé en 2017, quand il est arrivé à la rédaction en chef de Slate. Avec mon mari, on était sûr qu'il allait nous virer pour faire rire ses copains. Et je ne lui ai pas caché. J'ai décidé d'aller au contact avec lui, d'avoir une confrontation directe et de lui demander ce qu'il allait faire de nous et si ça allait dépasser ce stade et s'il allait tuer notre carrière, en gros. Et c'est quelqu'un qui m'a dit non, en fait, pas du tout. C'était pas du tout son intention. On a après eu des rapports de travail très sereins et il a jamais refusé d'en parler avec moi et d'entendre ma souffrance en tant que victime et même de réfléchir lui-même à comment il avait pu voir ces choses sans réagir. Je crois que parmi tous les membres de la Ligue du LOL, c'est celui dont je suis le plus proche, puisqu'on discute, parce que je ne parle pas avec les autres. En tout cas, il a enclenché une véritable prise de conscience il y a même quelques années, qui s'accélère ces derniers jours.
Par la force des choses.
Oui, c'est la moindre des choses, mais c'est pas le cas de tous, puisqu'il y a quand même eu des excuses particulièrement minables sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a des gens qui ont juste disparu. Ils ont pas tous le même, pas eu la même réaction. Tout à fait.
Ouais. C'est l'histoire des 13 de Balzac. Vous citiez Illusion perdue, qui est juste un documentaire tout à fait précis sur notre époque, sur la chaîne du livre. Il manque juste la partie internet, disons, mais on peut l'ajouter. C'est l'histoire des 13. C'est ce qu'on pourrait appeler une sorte d'idéologie viriliste qui régit notre société. Non seulement avec toujours ces, on n'est jamais loin de la pleurnicherie, hein, le lien, je pense notamment à cette espèce d'entretien qui m'avait assez sidéré de Bertrand Cantat dans Les Inrocs, d'ailleurs, qui avait fait la une, où il quand même passait un certain nombre de pages à pleurnicher sur lui-même. où des journalistes lui tendaient un mouchoir en fait pour écouter ses pleurnicheries après avoir assassiné une femme et avoir finalement fait assez peu d'années de prison pour ce crime. Crime qui pendant longtemps était considéré comme un crime passionnel quand même. Donc tout ça est quand même d'une cohérence. C'est pour ça, moi, la seule chose que je ne ressentirais pas, c'est de l'étonnement. Il y a ces formes de domination qui sont au pouvoir, qu'on les appelle patriarcales, domination masculine. Enfin, ça, c'est la base, en fait.
C'est ce qu'on voit ces derniers jours, c'est la chouinerie la plus totale de ces.
Mais c'est la plupart de ces gens.
C'est ce que j'entends là, c'est toujours lié. Alors, il y en a qui sont, a priori, en arrêt de travail. Il y en a qui sont au bord du suicide. Et on me dit ça ces derniers jours.
Ce sont toutes des victimes, quoi.
Aujourd'hui, oui. Et on me dit, ah oui, mais vous vous rendez pas compte, ils se font harceler sur Internet depuis quelques jours. Mais c'est compliqué. En plus, quand on a des valeurs, comme j'essaye d'être quelqu'un qui a des valeurs, de pas culpabiliser
la violence qui se prenne dans le visage depuis quelques jours,
alors que moi, cette violence, je l'ai eu distillée pendant 10 ans.
Alors, je voudrais, avant de finir, je voudrais souligner un des aspects. On a parlé de la crise de la presse, mais il y a un autre aspect contextuel dans quoi cette histoire s'inscrit, c'est le terrorisme. En juillet 2016, au moment de l'égorgement du père Jacques Hamel, Alexandre Hervault, donc l'un des principaux ligueurs, a tweeté: dans le but d'apaiser les tensions entre communautés, j'espère que les deux assaillants étaient des anciens scouts abusés par le prêtre. Il a eu droit à une série de réactions sur Twitter, et c'est la seule fois où il est allé porter plainte pour harcèlement lui-même. Il a été rejoint d'ailleurs par une ancienne militante de Ralph Front, devenue militante écologiste et élue municipale de Brest, Julie Legoïc, qui a tweeté le même jour, avant d'expliquer qu'elle trouvait le tweet de Alexandre Hervault très drôle. Du coup, le prêtre mort en martyr, est-ce qu'il a droit à 70 enfants de cœur au paradis? Donc on a l'impression quand même qu'il y a une espèce de dynamique de la violence qui fait qu'à un moment donné, le langage devient fou, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il n'y a plus de relativisation du réel, en tout cas. Il n'y a plus de conscience du drame et de conscience de ce qui se passe.
Oui.
Pour le bon mot, je pense, on est prêt à tout, quoi.
Ça pose quand même beaucoup de problèmes structurels et institutionnels. Hein, la formation, les contrôles, comment on laisse ça s'installer, comment on laisse cette impunité se répandre. Enfin, rien que ce que vous citez là à l'instant, il était déjà en poste à Libé quand même.
Oui, tout à fait.
Enfin, c'est une faute professionnelle caractérisée. Moi, j'ai un peu de mal à comparer. Alors, c'est très bien que les journalistes s'expriment à titre personnel, c'est formidable. Mais enfin, dans certains cas, quand on est sur des choses complètement diffamatoires ou d'une violence, ou en l'occurrence d'une bêtise inouïe, mais enfin, on peut pas avoir une carte de presse quand on écrit des choses pareilles quand même.
Le problème, c'est qu'il faut quand même dire que c'est impossible à quantifier. On peut pas dire qu'on peut dire des choses jusqu'à tel point. Après, c'est qui décide quand c'est trop grave, c'est ça.
Quand vous êtes tellement derrière la limite, franchement, là, il n'y a plus photo, quoi.
Mais c'est parce que depuis tout à l'heure, on n'a pas dit, peut-être parce que je vais enfoncer une porte ouverte, mais comment il est possible qu'ils tiennent ce double discours? Parce que c'est un double discours très frappant. Mais je crois que c'est parce que, pour l'instant, la parole sur le net n'a pas la même valeur, dans nos imaginaires, n'a pas la même valeur que la parole réelle. Du coup, ils se sentent autorisés à dire des trucs qu'ils ne diraient jamais dans
la vie. Je suis pas sûre, je pense qu'ils le diraient pareil dans la vie.
Enfin, qu'ils ne diraient peut-être pas... Non, vous avez raison, parce que ça serait les dédouaner trop fort, mais quand même, il y a quelque chose qui est lié aux médias et qu'il va falloir penser, en effet.
Mais je crois que Libération a enclenché une réflexion sur l'image du média, en l'occurrence, qui est engagée quand on est un journaliste qui tweete même en son nom.
Et je crois que c'est plutôt ce que vous disiez, à mon avis, la vraie question, qui est la question du langage. La question du langage qui est quand même notre condition humaine. Ce n'est rien d'autre que ça, l'être humain. Et là, il y a une dégradation de ce qui est l'humain, en fait, qui, je trouve, extrêmement préoccupante. Et souvenons-nous de l'Italie, je le répète, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est en train d'arriver en France. Et il y a un lien directement entre cette dégradation de l'éthique et de l'humain et ensuite l'arrivée au pouvoir de gouvernements fascistes, en fait.
Falcon cannot hear the falconer. Things
center cannot hold. And a blood dim tide is loosed upon the world.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Nathalie Lempereur, avec à la technique Nasser Moussaoui et à la réalisation Véronique Villa. Et dans un instant, une histoire particulière.
Shadow.